Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Nous sommes donc de retour après notre escapade belge et j'espère que vous avez apprécié notre émission en direct de Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes donc rentrés à la maison dans notre studio. Et nous évoquerons l'équipe de France avec des bleus à la peine face à l'hécatombe chez ses champions du monde. Le sélectionneur n'a que 2 matchs de Ligue des Nations pour tester son groupe renouvelé. Avec 12 blessés, ce seront bien plus que des ajustements. Beaucoup de travail en tout cas pour Didier Deschamps sur la pelouse et aussi en dehors. Quel impact peut avoir l'affaire des sponsors au sein d'une fédération qui a plié face aux demandes de sa star, Kylian Mbappé. Les JO de Paris en vue pour les jeunes footballeurs africains. Les qualifications débutent aujourd'hui. 38 équipes au départ qui se départageront ensuite lors de la CAN des moins de 23 ans l'an prochain. 3 places à prendre. CR7 Forever, la star de l'équipe portugaise, regarde déjà au-delà de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo veut continuer à jouer pour sa sélection jusqu'au prochain Euro en Allemagne en 2024. Il aura 39 ans. Vous n'avez pas joué jusqu'à 39 ans, Benjamin. Bonjour, Benjamin Moukandjo.
Bonjour, Annie. Non, je ne pense pas que j'aurais eu autant de force.
Et vous auriez dû demander la recette à Cristiano. C'est des pompes. Je crois que c'est 6 000 par
Mais
jour.
Benjamin n'a pas encore 39 ans.
Mais justement, oui. C'est pour ça.
Je suis loin de les avoir.
C'est pour ça que je vois qu'il est déjà sorti des terrains, même s'il est très élégant dans son survêtement. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis bonjour Philippe Doucet, monsieur Philippe.
Bonjour madame Annie.
Vous passez par notre studio aujourd'hui?
Oui, je suis de passage.
Vous avez amarré votre bateau.
C'est un vrai privilège d'avoir Philippe Doucet, Annie.
Oui, oui, je m'en rends compte.
Quand on m'appelle, je mesure ce privilège. Il est rare.
David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est là, fidèle au poste. Radio Foot, c'est parti.
Extérieur, intérieur. Voilà, tranquille. Tranquille. Ouais. Ouais.
Ils s'entraînent à Clairefontaine depuis lundi pour la plupart et les Bleus joueront donc demain soir au Stade de France face à l'Autriche. Une nouvelle rencontre en Ligue des Nations pour, qui sait, sauver une campagne bien mal engagée, nous en parlerons. Après avoir remporté effectivement le trophée à l'automne dernier, l'équipe de France est dernière de son groupe. De mauvais résultats en mars dernier, les effacera-t-on ou pas? Mais sans doute n'est-ce pas le premier souci de Didier Deschamps qui compte déjà les présents. Levez le doigt, il faut dire que son groupe de champions du monde est bien décimé. 12 blessés à 7 heures, qui sait si jusqu'au match il n'y en aura pas d'autres. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre homme des Bleus qui se trouve aux abords du Stade de France, puisque c'est là que les Bleus vont jouer demain soir. Antoine, quelle est l'ambiance dans cette équipe, vous qui étiez à Clairefontaine ces dernières heures? Est-ce qu'il y a une inquiétude au sein du groupe France, comme on aime à le dire parfois?
Alors l'inquiétude, si elle est là, elle est plutôt pas trop mal cachée, mais à la sortie des conférences de presse de Raphaël Varane et de Didier Deschamps, on se prenait un peu à regretter que le match se joue à Saint-Denis et pas à Cherbourg, tant on a eu affaire à une séance d'ouverture de parapluie. Les fameux parapluies de Cherbourg, là ils ont été grand ouverts entre Raphaël Varane et Didier Deschamps qui ont eu un discours assez similaire. Didier Deschamps, il est déjà pratiquement à minimiser l'importance des 2 matchs à venir en expliquant, c'est peut-être la première fois d'ailleurs depuis qu'il est sélectionneur, qu'il explique que le contenu va compter peut-être plus que le résultat. Lui qui est si pragmatique et qui préfère gagner 1-0 en jouant moche plutôt que de développer un jeu flamboyant depuis 10 ans qu'il est là avec l'équipe de France. Pour lui, il faut se concentrer sur l'immense défi en novembre, donc évidemment la Coupe du Monde. Et Deschamps de nous expliquer que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même que dans 2 mois. Raphaël Varane, lui, il fait appel à ses souvenirs d'avant la Coupe du Monde 2018 en expliquant qu'ils n'avaient pas eu de bons résultats en mars, mais que c'était allé mieux. Après, il y avait une force collective qui les avait amenés jusqu'au bout. Bref, je vous le disais, ouverture de parapluies. Et il va falloir voir si ces parapluies suffiront de demain contre l'Autriche.
Oui. Alors, hier, on l'avait dit, quand on était à Bruxelles, on était à J-2 mois exactement du coup d'envoi. Est-ce que vous seriez inquiet pour les Bleus, Benjamin Mukanjo?
Bah oui.
Vous l'êtes?
Oui, je le suis et je le serai si la situation n'évolue pas, parce que je crois que la situation n'est pas uniquement sur le plan sportif.
Oui, ça, on va en parler après.
Voilà, il y a aussi une autre situation, et je crois que ce n'est pas la meilleure façon de préparer une compétition, surtout la Coupe du Monde.
Maintenant, les interférences, vous pensez que ça perturbe une équipe?
Ça perturbe forcément. Quand vous aurez des joueurs, ou même Didier Deschamps, qui va dire non, on est focus sur le terrain, mais... On sait tous que bon, c'est pas vrai. En plus que moi, heureusement que j'ai été sur le terrain, je sais à peu près de quoi je parle. On essaye souvent de botter en touche, mais oui, ça revient. Quand il y a un malaise à ce niveau-là, ben, il y est toujours présent.
Patrick Juillard.
Oui, je pense que la France était déjà, avant cette cascade de forfaits qui donne à ce stage final d'avant-Coupe du Monde des allures de
cours de récré.
Ouais, de stage pour rien, un petit peu de stage presque d'équipe A prime à l'époque où elle n'existe plus depuis longtemps. Mais à une époque, il y avait l'équipe de France A prime. On a presque l'impression qu'on a retrouvé l'équipe de France A prime. Mais c'est une mauvaise lancée pour l'équipe de France. Sur les 4 premières journées de la Ligue des Nations, 0 victoire, 2 nuls de défaite, 3 buts marqués, 5 buts encaissés. L'équipe de France, en plus, a changé de schéma tactique et passé avec d'un schéma à 4 défenseurs à un schéma à 3 défenseurs centraux. C'est un schéma qui peut fonctionner, mais qui nécessite davantage de travail. Oui. Les joueurs sont moins habitués. Il faut des automatismes, mais il faut surtout des joueurs spécifiques au poste de couloir. Et je trouve que même lorsque tout le monde est là, Didier Deschamps ne les a pas vraiment dans les deux couloirs. C'est un petit peu brinque-ballant. Et puis si on regarde bien, comment c'est bien de dire que le plus important c'est dans 2 mois et c'est la Coupe du Monde, mais la France doit tout de même sauver sa place en première division de la Ligue des Nations, parce qu'en cas de relégation, alors ça n'a l'air de rien, mais il y a deux conséquences quand même pas négligeables. C'est déjà une perte financière pour la FFF qui en ce moment n'a pas vraiment besoin de ça, et puis... Ça voudrait dire que lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations, la France va se retrouver avec des adversaires de moindre calibre, ce qui pour préparer les matchs, puisqu'il n'y a plus d'amicaux, c'est pas une bonne nouvelle. Donc tout ça,
je pense qu'il est
important, à mon avis, quand même, de gagner au maximum les 2 matchs qui viennent.
Ouais, ça n'a pas l'air d'être. Je pense que c'est pas le souci principal de Didier Deschamps, non. Philippe Doucet, il est plutôt focus sur la Coupe du Monde là.
Apparemment, si j'ai bien compris Antoine dans ses déclarations, mais ça m'étonne un petit peu parce que je suppose que Didier Deschamps, l'avenir de l'équipe de France l'intéresse aussi au-delà de la Coupe du Monde. Et notamment s'il reste en poste, ça peut le concerner un petit peu d'être obligé de jouer la Finlande à Guingamp, certes, c'est très sympathique.
À Cherbourg, il disait.
Non, en général, c'est à Guingamp, pour des raisons que je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi, mais les matchs sont souvent à Guingamp.
Bon, quelle coïncidence.
Mais ce genre de match, c'est souvent à Guingamp. Bon, c'est comme ça.
Et Antoine doit comprendre
pourquoi. Non, c'est une petite plaisanterie, il devrait en tout cas, parce que c'est son job, de faire en sorte que ces 2 matchs-là ne soient pas négatifs, et que l'équipe de France garde sa place au moins en première division, même si apparemment, effectivement, tout le monde s'en fiche. Je ne le lis nulle part. Tout le monde ne parle absolument pas de cette relégation éventuelle, alors que ce n'est pas un problème majeur.
Ça l'afficherait mal, quand même.
Mais ça l'afficherait mal.
On est tenant du titre, mais bon, ça va être comme la Coupe du Monde. Justement, Antoine, on est tenant du titre à la Coupe du Monde. Or là, les rangs sont plus que clairsemés. Si j'ai bien compté, il en reste 6 des champions du monde dans le groupe qui jouera demain.
Oui, on a compté à peu près la même chose. Annie. Faut voir surtout l'équipe des absents, elle est presque plus belle que l'équipe des présents, hein, parce qu'il y a Hugo Lloris qui est pas là, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Lucas Hernandez parmi les champions du monde, et puis ceux qui peuvent apporter quelque chose, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté à la marge, pourquoi pas, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe que j'avais oublié parmi les champions du monde.
Rabiot n'est pas champion du monde, hein.
Ouais. Non, Rabiot n'est pas champion du monde, mais Kimpembe, lui, il l'est. Non, ça va être une équipe forcément qu'on va voir demain, qui sera totalement expérimentale. Et même dans la gestion du groupe, Didier Deschamps, il est obligé d'intégrer des joueurs à 2 mois de la Coupe du Monde en leur expliquant que c'était le plan C, voire D, mon garçon. Donc tu viens ici, c'est bien, découvre, assieds-toi à la table des joueurs qui iront à la Coupe du Monde. Mais toi, tes espoirs, ton statut risque de pas évoluer énormément. C'est assez compliqué et il se serait certainement bien passé d'avoir tous ces problèmes-là à gérer à 2 mois du Mondial.
Oui, parce que Patrick Juillard tout à l'heure parlait d'équipe A prime, mais dans l'équipe A prime, à la limite, on aurait mis Théo Hernandez, on aurait mis Bouba Camara, on aurait mis Lucas Digne, on aurait mis Jordan Veretout, et tout cela, eux aussi appelés, se sont effacés parce qu'ils sont blessés. Alors écoutons un de ces petits nouveaux qui ne croient pas à sa chance, Benoît Badiachile, qui est le
Badiachile de l'AS Monaco.
De l'AS Monaco, effectivement, défenseur.
J'étais assez surpris quand même d'être sélectionné. Je m'y attendais pas forcément. Maintenant, voilà, c'est fait. Je suis très content. Quand on est sélectionné pour la dernière liste avant le Mondial, oui, on peut avoir des ambitions et espérer y participer. Essayer de montrer mes qualités déjà là pour ce rassemblement. Et ensuite, avec Monaco, en club, d'essayer d'être le plus régulier possible pour pouvoir essayer de se frayer un chemin et de trouver une place dans ce groupe.
Vu le contexte, Philippe Doucet, être convoqué pour la première fois à 2 mois de la Coupe du Monde, est-ce que c'est réaliste de se dire finalement je peux y être ?
Si toutes les blessures se prolongent, allez savoir. Bon, en l'occurrence, de ce que l'on sait, Pogba et Kanté sont les plus douteux pour la Coupe du Monde. Tout le reste, normalement, devrait revenir d'ici la Coupe du Monde. Donc effectivement, Benoît Badiachile, il est relativement réaliste, mais rien ne lui interdit de se dire, après tout, si je suis convaincant pendant ce stage et s'il demeure des troubles en défense centrale, comme dans l'équipe de Deschamps, il faut pas mal de défenseurs centraux compte tenu du passage éventuel, parce que parfois il est repassé à 4 aussi en juin.
Contre la Croatie, il était à 4.
Il est repassé en 4, donc bon, enfin en tout cas, il va mettre au moins 4 ou 5 défenseurs centraux à coup sûr, Didier Deschamps, donc il peut toujours espérer. Tous n'y seront pas, tous les nouveaux qui sont arrivés là n'y seront pas, mais un peut-être par miracle entre guillemets, peut-être jouer sa chance.
C'est l'effet Philippe Mahu ou Pascal Chimbonda en fait, c'est la surprise de dernière minute.
Là, comme Ribéry aussi. Hein.
Benjamin,
Ribéry, donc pour moi, vous avez eu ce rôle-là vous aussi, vous avez été une fois convoqué parce qu'il y avait beaucoup d'absents et puis vous avez dû ronger votre frein ou non?
Malheureusement, non.
C'était tout ou rien, Benjamin.
Oui, oui. Bon, ça a souvent été tout. Voilà.
Bah oui. Heureusement. On va pas se plaindre.
Un champion d'Afrique, quand même.
Mais je pense qu'il peut y croire. Il peut y croire parce que, bon, derrière, à la sortie de ce stage-là, il va quand même rester des matchs de compétition. Donc, on ne sait pas. Il peut y avoir d'autres blessés. Ça peut arriver. Donc, pour moi, c'est bien la surprise. Nous aussi, on était surpris parce qu'on sait tous que s'il y avait tout le monde, probablement, il ne serait pas là. Mais maintenant, une fois que vous êtes là, c'est une opportunité, c'est une chance. Maintenant, c'est à lui de la saisir.
Antoine ?
Oui, c'est loin d'être automatique hein, d'être au Mondial quand on était dans la liste précédente. Hein. C'est difficile d'imaginer qu'un Benoît Badiachile ou un Randal Kolo Muani pourraient faire partie des 23, voire 26. À la rigueur, peut-être, faut aussi compter sur fait que Deschamps élargira un petit peu sa liste, même s'il l'avait dit, il préfère être à 23 qu'à 26. Celui qui a certainement la plus grosse carte à jouer, ça peut être Youssouf Fofana, le milieu de terrain de Monaco, parce que au milieu, effectivement, Paul Pogba et N'Golo Kanté, on se pose des questions sur leur présence, donc il y a une place éventuellement à prendre, peut-être une sur deux, pour Youssouf Fofana. En plus, il a la chance de connaître déjà d'autres joueurs qui sont dans cette équipe de France, comme Aurélien Tchouaméni, par exemple, la filière monégasque, la filière des espoirs aussi, Deschamps a puisé dans le réservoir des espoirs pour faire venir des joueurs pour ce rassemblement-là. Mais il faut se souvenir qu'en juin dernier, Deschamps avait appelé Ibrahima Konaté, William Saliba, Matteo Guendouzi, et qu'ils s'étaient tous montrés un petit peu tendres au niveau international et il s'était montré tendre sur des matchs de Ligue des Nations. Donc imaginez comment il pourrait réagir pour un match de Coupe du Monde. ça va être compliqué, très compliqué.
C'est le problème sans doute des petits nouveaux, je dirais. L'expérience du groupe, oui, mais ils ne sont pas assez aguerris peut-être, Patrick.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des joueurs appelés pour la première fois qui ont, soit par la chance du débutant, soit parce qu'ils sont dans un très bon jour, réussissent un très bon match, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils pourraient assurer pareil en Coupe du Monde. Maintenant, je pense que Didier Deschamps compte secrètement là-dessus, c'est-à-dire que ces joueurs dont ce sera la première sélection se transcendent pour à la fois sauver les meubles en Ligue des Nations et peut-être mettre le doute dans la tête du sélectionneur, sachant que, comme l'a dit Benjamin, là on part du principe que les joueurs blessés actuels vont revenir. C'est vrai qu'il y a des grandes chances pour la plupart qu'ils reviennent, mais peut y avoir d'autres blessés d'ici là. Mmh. Ça peut rebattre les cartes encore, donc c'est pas encore fini tout ça.
Alors justement, Antoine, vous nous parliez de Youssouf Fofana, qui lui est milieu de terrain du côté aussi de Monaco, et il va retrouver Tchouaméni, dont vous nous parliez aussi. Tchouaméni, on le voit rentrer dans les rangs du Real à une vitesse actuellement impressionnante. Est-ce que ça sera un peu la même chose en équipe de France? Est-ce qu'on aura aussi un milieu de terrain comme ça, Fofana, Tchouaméni? En tout cas, Tchouaméni compte-t-il beaucoup sur lui? Bien, écoutons Didier Deschamps il y a peu, justement, lorsque vous étiez au Stade de France.
Il dégage tellement de sérénité, de force, de puissance, capacité à jouer dans plusieurs postes. Par rapport à ce qui était sa situation quand il a signé au Real Madrid et l'évolution qu'il a eue, ça lui a certainement donné un peu plus d'oxygène et d'espace aussi, mais Aurélien a tout pour être où il est, c'est-à-dire au plus haut niveau et continuer d'y être.
Il est très jeune, évidemment, Aurélien Tchouaméni, mais vu l'expérience déjà entre Monaco et maintenant le Real Madrid, est-ce que c'est peut-être le futur élément au milieu pour l'équipe de Didier Deschamps et pour son 11, Antoine, selon vous?
Là, à l'heure actuelle, vu les absents, oui, c'est sûr. Mais même sans les absents, il semble qu'il se fasse une place Didier Deschamps l'a dit, il a impressionné son sélectionneur. Il a impressionné aussi Raphaël Varane, qui connaît très bien le Real Madrid, donc qui sait exactement c'est difficile de s'intégrer dans un club comme celui-là. Il a des qualités physiques, il a des qualités à la fois défensives et d'organisation du jeu qui en font un joueur qui peut compter. Et effectivement, cet apprentissage express du haut niveau avec le Real ne peut être que bénéfique à l'équipe de France. Après, Tchouaméni ne fera pas tout seul. Quels joueurs seront autour de lui en équipe de France? Comment Didier Deschamps va les faire jouer? C'est une autre question et elle est très très importante quand il s'agira de juger les performances d'Aurélien Tchouaméni.
Benjamin Moukandjou, justement, on se souvient de cette équipe de France championne du monde en 2018. C'était avec notamment ce milieu de terrain Pogba-Kanté. Là, les deux sont absents. Seront-ils présents à la Coupe du Monde? Pogba, peu de chance. Kanté, vraiment, c'est le grand point d'interrogation. Est-ce que pour vous, ça pourrait être l'année de Tchouaméni déjà?
Moi, je l'avais dit déjà ici une fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez que pour moi, je le voyais même bousculer la hiérarchie au niveau de l'équipe de France. Et c'est ce qui est en train de se passer, même si...
Alors, il bouscule personne parce qu'il y a finalement...
Oui, même si les autres sont absents sur blessure. Mais
il bouscule déjà au Real, même si Casemiro n'est plus là et qu'il y avait une place à prendre
il a,
aussi.
Il a pris sa place.
Ben oui.
Et puis, il faut savoir aussi que son intégration, elle se fait naturellement et plus facilement parce qu'il est bien entouré quand même autour de lui. Il y a les deux vieux briscards qui sont toujours là et je pense qu'il s'appuie aussi énormément sur eux. Ben pour revenir en équipe de France, moi je suis persuadé
Au Real,
que...
Au Real, deux vieux briscards du
Real.
Au Real, oui, pardon.
Pour revenir en équipe de France, moi je suis persuadé qu'il a une carte à jouer et moi je suis convaincu qu'il ne va pas décevoir. Maintenant, c'est clair que s'il faut comparer entre Pogba et Kanté par rapport à Tchouaméni, Pogba, quand il est vraiment à son meilleur niveau, c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, la question, c'est de savoir, même s'il revient, dans quelles conditions il reviendra physiquement.
Il faut
avoir un joueur qui est frais.
Je pense qu'il y a l'aspect physique et puis il y a peut-être aussi l'aspect de tout ce qui a circulé dans la presse au moment des révélations sur l'affaire Pogba avec le...
Bien sûr, son frère.
Mbappé a été cité quand même. Est-ce que s'il revient, tout va bien se passer dans le groupe? C'est pas sûr. Et est-ce que Deschamps ne préfère pas finalement Est-ce que cette blessure ne l'arrange pas finalement ? Parce que ça lui fait un problème humain de vestiaire en moins à gérer. Je pose la question sur Tchouaméni, je partage l'avis de Benjamin. C'est-à-dire que si on regarde les feuilles de match depuis le début de l'année 2022, c'est pratiquement le joueur de l'équipe de France qui a le plus de temps de jeu, Aurélien Tchouaméni. Donc c'est plus un bleu. Il est chez les bleus, mais c'est plus un bleu. Il a une douzaine de sélections. Il s'est imposé. Alors je pense, comme Benjamin, c'est pas encore le joueur exceptionnel que peut être Pogba, qui va inventer des gestes, mais des buts, changer des matchs sur une inspiration, mais il est fiable pour moi. Mais c'est pas le niveau d'un Pogba au top, mais c'est un joueur fiable.
Philippe, qu'est-ce que vous diriez vous sur Tchouaméni? Est-ce que c'est un joueur qui peut progresser et peut nous impressionner déjà prochainement?
Bon, personnellement, il m'impressionne déjà beaucoup. C'est un joueur qu'on a vraiment apprécié à Monaco avant même qu'il devienne international. On sentait vraiment le potentiel. L'immense potentiel, sauf qu'à l'époque, les cartes étaient un peu biaisées parce que dans le milieu de terrain de l'équipe de France paraissait assez inamovible. On avait l'impression que ça ne bougerait jamais. Et puis Tchouaméni est rentré là-dedans sans aucune encombre. Il a su prendre sa place très, très naturellement parce qu'il a beaucoup de talent. Et évidemment, le fait qu'il soit au Real Madrid change tout maintenant parce que, évidemment, en plus, il a la confiance qui va avec, il a l'aura qui va avec, et ça lui permet de s'affirmer quasiment effectivement comme un leader, ce qui est quand même étonnant quand on a une dizaine, une douzaine de sélections. C'est une très belle surprise, mais finalement, quand on a tellement de qualité, autant de qualité que lui, souvent on s'impose tout de suite, vite.
Dans un Real qui perd pas un match et dont l'entrejeu a été chamboulé par le départ de dernière minute de Casemiro. Donc, c'est dire si c'est quelqu'un déjà de fiable, vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut résister, même si ça tangue un peu, lui, il est là. Il est là. Et je pense que Deschamps compte déjà sur lui, parce qu'il sait très bien qu'il y a peu de chances que les deux, son duo magique, Pogba-Kanté, reviennent, que les deux reviennent. S'il y en a un, à mon avis, ce sera déjà bien.
Antoine, alors à quoi va ressembler, selon vous, puisque vous avez rencontré Didier Deschamps, je suis sûr que vous avez tout dit tout à l'heure, à quoi va ressembler le 11 expérimental demain pour sauver demain pour les deux prochains matchs pour sauver l'honneur des Bleus là.
Oui, c'est bien son genre de tout dire, Didier Deschamps.
Bien au contraire.
Il avait rangé les parapluies en off, je suppose.
Il va falloir voir s'il revient à ce 4-3-3 qui avait fait le succès de l'équipe de France à la Coupe du Monde, ou s'il reste sur son 3-5-2, enfin son système à 3 défenseurs ou à 5 défenseurs selon comment on se place. La seule certitude qu'on puisse avoir, c'est que Mike Maignan sera dans les buts. Didier Deschamps l'a pas dit, mais la blessure de Hugo Lloris lui ouvre un boulevard à Mike Maignan qui est énorme avec son club du Milan AC dans ce début de saison.
Matteo Tchouaméni va être ravi.
Ah, il y a des chances, oui. Et puis imaginez qu'Olivier Giroud soit titulaire lui aussi. Bon, on commence à rêver un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que Mike Maignan sera dans les buts parce que Alphonse Areola, tout champion du monde qu'il est, il n'était que troisième gardien à la Coupe du Monde, donc il est très très loin dans la hiérarchie. Et Alban Lafont, qui est arrivé au dernier moment, n'a pas la stature pour concurrencer un Mike Maignan. On peut imaginer dans un système à trois défenseurs centraux que Raphaël Varane, Jules Koundé et soit William Saliba, soit Dayo Upamecano soient alignés. Pourquoi pas Ferland Mendy à gauche, le latéral du Real Madrid. Il a l'avantage de pouvoir jouer des deux pieds et ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué en équipe de France, Ferland Mendy, mais le fait d'être revenu, ça peut lui ouvrir une porte. Benjamin Pavard serait évidemment côté droit, avec un milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et un doute sur l'identité du troisième qui pourrait être pourquoi pas un Matteo Guendouzi qui avait fait le rassemblement précédent. Et devant, on peut penser à une attaque Griezmann-Mbappé. S'il revient en revanche au 4-3-3, Ousmane Dembélé pourrait avoir sa chance puisque lui aussi revient bien avec le Barça. Il est Il est épargné par les blessures, il a l'air d'être un petit peu plus sérieux dans son hygiène de vie.
Son réveil
fonctionne.
Du coup,
il est extrêmement performant.
En tout cas, sur la forme du moment, il mériterait de débuter.
Mais ça, titulariser Dembélé, ça obligerait vraisemblablement Didier Deschamps soit à l'utiliser comme piston, ce qui n'est pas du tout son poste, soit à revenir au 4-3-3 avec Griezmann sur un côté, Mbappé en pointe. Peut-être que Dembélé peut faire pencher la balance en faveur d'un 4-3-3.
On peut aussi avoir un 3-4-3 dans lequel il jouerait en haut à droite. Qui sait ?
Bon, je pense
en
que
restant à 3 derrière, c'est possible.
C'était pas le signe qui a fait
non, mais
Didier Deschamps.
J'imagine tout, on peut encore, le match n'a pas commencé.
On a la chance de pouvoir faire ça. Antoine, il y a une chose quand même, c'est que Didier Deschamps, ses problèmes ne s'arrêtent pas au rectangle vert. Mbappé a remporté, on peut dire, son bras de fer avec les dirigeants du football français. Il a obtenu pour tous un regard sur leur droit à l'image avec ses contrats avec les sponsors, une préoccupation légitime selon la fédération, on l'a su lundi soir si je ne me trompe pas. Mbappé tout puissant au PSG, puisque le projet tourne autour de lui, et désormais Mbappé est-il tout puissant à la fédération française ? Qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut changer les choses ?
C'est sa deuxième grève du marketing, Kylian Mbappé. Il en avait déjà fait une en mars. Et à l'époque, il y avait eu des promesses de la fédération. Là, cette fois-ci, il a fait plier la fédération en faisant en sorte que Noël Le Graët et son directeur du marketing de la fédération se déplacent et viennent discuter avec les cadres. Raphaël Varane, tout à l'heure, on lui a posé la question en conférence de presse. Il soutient totalement...
Justement, Antoine, je vous propose de l'écouter. Parce que Raphaël Varane est justement,
il soutient la démarche.
Exactement. Merci pour le lancement. On y va.
En tant que groupe, collectivement, on veut faire respecter le droit d'image individuelle de chaque joueur. C'est une demande qui est simple, qui est logique et légitime par rapport à notre temps. En fait, ce qu'on veut, c'est simplement une mise à jour pour éviter les bugs à l'avenir. On n'a pas envie de perdre d'énergie là-dessus, on veut vraiment se focaliser sur le terrain. Et voilà, je pense que c'est le genre de choses où, en tout cas, par rapport aux discussions qu'on a eues, qui avancent bien et c'est très positif. Ça va vite, c'est réglé.
C'est réglé pratiquement et position unanime, nous dit Raphaël Varane.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la question de l'argent, et vous le savez, dans le football, l'argent, c'est le pouvoir, et le pouvoir, ça fait tout. Kylian Mbappé a fait plier la fédération, et du coup, il met indirectement Didier Deschamps un petit peu en porte-à-faux, parce qu'on connaît la proximité que peut avoir Didier Deschamps avec Noël Le Graët, le président de la fédération française. Les deux se parlent très régulièrement, ils sont très, 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 très proches l'un de l'autre. Comment va réagir Didier Deschamps face à un joueur qui décide de rentrer dans le bras de fer avec le président de la fédération? Est-ce que ça peut pas avoir des conséquences indirectes sur la relation entre Mbappé et Didier Deschamps? Peut-être pas dans l'immédiat, mais si les tensions persistent entre les joueurs cadres et s'il y a des défaites, et même si ça joue mal, maintenant que Mbappé s'impose comme le leader de la contestation face à la fédération, est-ce que Mbappé va pas finalement mettre Didier Deschamps dans la situation où il a pu mettre les entraîneurs du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'on peut pas sortir Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ça va devenir difficile de le sortir en équipe de France maintenant, tout Didier Deschamps qu'on s'appelle, donc il y a forcément des conséquences peut-être inattendues qui peuvent découler de cette situation et de ce bras de fer sur la convention des droits à l'image.
Philippe Doucet, vous pensez qu'il faut craindre cela ?
Moi, je me placerais plutôt dans le problème de fond que ça pose. C'est-à-dire que je pense que là, Mbappé a remporté une victoire et parfois, on a tort d'avoir raison. Je pense qu'il avait raison. Sur le fond, il y avait des lacunes de la part de la fédération qui n'a pas su traiter le problème, à l'évidence. Mais que ça se passe comme ça, 2 mois avant la Coupe du Monde, me paraît pas bienvenu pour des raisons qu'Antoine en partie a expliquées, mais il peut y avoir aussi d'autres développements. Et puis surtout, je pense au reste du football. Je crois que l'équipe de France a aujourd'hui besoin de beaucoup de soutien. Et je crois que si demain, il y a une vague de sponsors qui commence à dire « Ah ben vous savez, si c'est Lucas Digne qui vient à la photo, je ne sais pas si je vais mettre la même somme. » Les recettes de la fédération, c'est 260 millions d'euros. Une bonne partie, pas assez, mais une partie, je crois que c'est autour de 80 à 90 millions, vont au football amateur. Je n'aimerais pas que demain, tout d'un coup, la fédération déplore une vingtaine de millions de baisse de ses recettes, qu'elle ne compensera pas par plus de licenciés ou autre, parce que la période n'est pas aisée en ce moment. Et l'image du foot n'est pas géniale non plus, et la fédération en est en partie coupable. Ok, très bien, mais j'aimerais pas que demain, il y ait des conséquences, si vous voulez, qui dépassent complètement le fait que Mbappé, dans le fond, avait plutôt raison, parce que les accords que la fédération faisait signer aux joueurs étaient un peu dépassés, à l'évidence.
Benjamin. Moi, je pense que c'est le timing n'est pas bon, certes, mais quelque part aussi, c'est la Fédé qui l'a voulu, parce que les joueurs, la Fédé a été relancée plusieurs fois.
Oui, je crois que c'est au mois de mars dernier.
Pourquoi ils ne se sont pas assis autour d'une table?
À l'époque, c'était un problème Mbappé-Fédé. Là, je vois que les joueurs soutiennent tous Mbappé. Tant mieux, quelque part, au moins au niveau du groupe, ça ne pose pas de problème, ce qui est déjà une bonne nouvelle, parce que ce n'était pas si évident que ça.
Moi, je trouve que le fait d'avoir attendu aussi longtemps et de vouloir régler un problème aujourd'hui à 2 mois de la Coupe du Monde, pour moi, le timing il n'est pas bon. C'est-à-dire que quand le problème il est sorti, quand ça a éclaté, ils auraient dû s'asseoir, se mettre autour d'une table et d'en discuter, de trouver la solution le plus tôt possible.
Et vraisemblablement, il y a eu plus ou moins des jeux politiques autour de ça.
La Fédé a voulu noyer le poisson en se disant de toute façon, la Coupe du Monde prie, mais on verra ça après.
Et elle s'est noyée.
Mais pour moi le problème c'est que
vraisemblablement ça va rien changer dans les deux mois.
C'était son intention, mais oui, il se trouve que la Fédé est tombée en état de faiblesse et que Mbappé en a abusé.
Exactement.
Je sais pas s'il a raison, je suis pas sûr.
Il a, alors ça sur le fond, Philippe, je suis d'accord, il y a des doutes là-dessus, mais politiquement l'entourage de Mbappé a bien joué. La Fédé est tombée dans une situation d'extrême faiblesse, elle avait plusieurs incendies à gérer. Elle s'est dit, on va peut-être pas en ajouter un autre, donc cédons là-dessus. Et
je crois qu'on lui a dit aussi.
Oui, mais ça,
vraisemblablement, on lui a dit.
Ça montre au moins que Mbappé et son clan ont un certain sens politique.
Mais
on
les
peut
photos,
pas leur enlever.
Les photos apparemment ont eu lieu et peut-être qu'effectivement, jusqu'à la Coupe du Monde, on va un peu calmer ça. Mais est-ce que ça peut être un problème selon vous, Benjamin? Finalement, Mbappé, il connaît depuis ses débuts en équipe de France, c'est avec Didier Deschamps. Est-ce que il pourrait un jour faire acte comme ça de un peu d'enfant gâté et de se confronter à celui qui l'a emmené au titre de champion du monde. Vous qui pouvez être dans la tête d'un joueur.
Moi, je pense que ça, c'est ce que les gens ils disent. Hein. Bon, on a toujours dit qu'il avait l'apparence d'un enfant gâté. Mais moi, je crois que Didier Deschamps a été un joueur. Donc, c'est plus facile pour un joueur de comprendre, plus facile pour quelqu'un qui a été un joueur de comprendre un autre joueur dans ces situations-là. Mais pour moi, ça, c'est même pas sur le terrain, ça. Pour moi, le terrain.
Non, mais justement, est-ce que ça peut rentrer sur le terrain, avoir des conséquences que Deschamps ne peut pas le sortir
ou... J'espère que non. J'espère que non. J'espère que Deschamps va toujours rester le maître de son équipe et qu'il prendra les décisions qu'il faut au moment opportun.
Bon. Eh bien, c'est ce qu'on verra.
Moi, juste un petit mot sur l'éthique, les principes, la défense des valeurs de Mbappé. Il est très rigoureux là-dessus sur l'équipe de France. Sur le PSG, c'est un peu plus flottant. Il accepte des sponsors, Unibet, McDonald's, Coca-Cola.
Alors en club, on est mieux payé. Il y a moins de débat en club.
C'est un peu à géométrie variable. Je voulais juste le souligner, ce qui n'enlève rien au bien fondé de sa démarche précise sur l'équipe de France.
C'est aussi ce qu'on se demande un petit peu. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été en direct avec nous.
Mais avec plaisir, Annie, on se retrouve pour parler de cette équipe de France dans les semaines qui viennent, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, surtout s'ils perdent demain contre l'Autriche. 18h45, temps universel, le coup d'envoi au Stade de France.
Bien, on y sera. Merci beaucoup, Antoine, et bon retour vers la maison mère.
Merci.
Nous, on continue, on va vers l'Afrique quelques instants. Destination Paris 2024. Les jeunes footballeurs africains, en tout cas ceux qui ont moins de 23 ans, commencent aujourd'hui leur parcours du combattant pour espérer disputer les prochains Jeux Olympiques dans la capitale française. 38 équipes sur la ligne de départ, pour seulement 3 places à conquérir lors du tournoi final. Ça sera lors donc de la CAN des moins de 23 ans qui se disputera l'an prochain au Maroc. L'écrémage commence avec un 3e tour pour 20 équipes, alors qui verra notamment les affiches Éthiopie-RDC, Mauritanie-Congo ou encore Burkina Faso-Gambie. L'entraîneur des étalons, Brahma Traoré, parle donc du rêve de ces jeunes poulains. Il est au micro de Félix Pépéripé.
C'est un match décisif. Le moral est au beau fixe. Les enfants sont bien préparés pour ce match et ils sont décidés parce que le Burkina n'est jamais parti à la CAN et il faut éliminer 3 grands pays, la Gambie, le Sénégal et ensuite le Mali. Donc pour arriver à la CAN. Et à la CAN, nous aurons comme ambition également d'aller aux Jeux Olympiques. Quand tu arrives avec ton pays à la CAN, tu es au firmament du football africain et ensuite sur le plan mondial si tu arrives aux Jeux Olympiques avec les U23. Donc c'est sur 2 tableaux nous jouons, mais la finalité, c'est les Jeux Olympiques et ces 2 compétitions sont d'une importance capitale pour le joueur burkinabé.
Pour des jeunes joueurs, Benjamin Moukandjo, les JO, c'est un peu leur Coupe du Monde.
Déjà, on peut voir que le parcours il est assez long pour arriver aux JO.
C'est terrible.
Ah ouais, c'est.
Il y en a 35 éliminés.
Ah, c'est beaucoup de matchs. Ah ouais. Non, je crois que c'est un rêve. On en a parlé en plus des rêves une fois avec Philippe. On disait que les jeunes, c'est bien qu'ils continuent à rêver. Il ne faut pas les empêcher de rêver. Et oui, quand on a...
Les JO, la médaille d'or, tout ça, c'est quand même, ça reste quelque chose qui fait rêver.
Bah, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est peut-être pas le même niveau que la Coupe du Monde, mais je crois que c'est quand même un niveau un peu au-dessus de la Coupe d'Afrique. Et ouais, c'est important pour ces jeunes-là d'avoir quelque chose sur quoi s'accrocher.
Philippe, le problème, c'est ça, c'est que c'est un parcours du combattant terrible. Alors bon, on pense aux 5 places du continent africain pour la Coupe du Monde, c'est à peu près du même acabit.
Oui, oui, parce qu'il n'y a que 3 places, mais en même temps, le tournoi olympique est très, très petit. Hein. Je crois qu'il y a 16 équipes en tout et pour tout. Donc,
Brésilien tenant du titre
oui, voilà, donc,
et de l'avant-dernier titre.
Forcément, donc forcément, effectivement, c'est très... Bon, vous me direz, il y a une dizaine...
Il y a Mbappé hein, qui rêve de le disputer, on le sait.
Oui, il y a une quinzaine de pays africains qui ne disputent pas quand même ce tournoi olympique. Je trouve ça dommage. Ça prouve un manque de motivation.
Alors que pourtant, l'essentiel est de participer, oui.
Bah, oui, normalement, à la CAN, il y a peut-être 3-4 pays qui ne participent pas aux qualifications. Là, je vois une quinzaine de pays,
c'est
je trouve
beaucoup.
Ça beaucoup. Je trouve ça dommageable. Mais c'est aussi dû à ce tournoi U23 qui est pas...
Un peu bancal.
Qui est un peu bancal, qui est un peu délicat, qui n'est pas très installé, en fait, dans les compétitions africaines. Là, déjà, il y a un petit progrès parce qu'une partie de ces qualifications se joueront sur des dates FIFA. Donc, c'est déjà pas mal. Éventuellement, quelques pays peuvent appeler des joueurs qui ne sont pas au pays, enfin qui ne sont pas sur le continent, même africain, pour disputer ces matchs. Mais une partie seulement, parce que là, je crois qu'ils disputent 4 matchs, là, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Et ensuite, ils ont une phase finale à 8 au Maroc en fin mars, où là, il y aura à nouveau une partie sous les dates FIFA, mais une partie sans date FIFA. Donc, on va avoir des joueurs qui jouent peut-être quelques matchs, mais pas les autres.
Et
enfin,
après,
c'est un peu bizarre.
On sait, c'est quoi? C'est 3 hein, de plus de 23 ans qui peuvent intégrer l'effectif.
Voilà.
Oui, en donc, en plus, alors, ça bouscule toutes les hiérarchies.
On a le même problème, c'est mondial, parce que en Europe, pareil, on joue l'Euro Espoir, les 3, enfin, pas les 3 premiers, ils ont plus de place. Mais un certain nombre d'équipes sont qualifiées, et puis c'est des moins 23 ans également, et puis là, ils rajoutent tout d'un coup les 3. Bon, ça, c'est des concessions entre FIFA, CIO, ça, c'est un peu complexe.
Non, c'est un tournoi qui n'est pas... qui
c'est
est
pour
un
donner
peu mal
du brio à la compétition.
Et
hein,
mal installé dans le calendrier international. Rappelez-vous quand même qu'en 2011, c'est le Gabon qui avait gagné la CAN des moins de 23 ans, et c'est le seul titre continental de l'histoire du football gabonais. Personne ne s'en rappelle. À part quelques supporters du Gabon et moi et Philippe et Benjamin, mais à part des initiés, pas grand monde s'en rappelle. Bon, ça avait permis à Pierre-Emerick Aubameyang de jouer les JO puisqu'il avait été un des joueurs ajoutés, mais c'est quelque chose, c'est un tournoi qui est mal intégré dans le calendrier, qui est un peu, comme l'a dit Philippe, sur le plan des règlements FIFA un peu bâtard. Et moi je pense, et on en avait déjà parlé avec Philippe, peut-être qu'il faudrait plutôt rendre le CHAN qualificatif pour les Jeux Olympiques, de manière à lui donner un enjeu supplémentaire, à pimenter la compétition et de manière aussi à alléger le calendrier de ces dates qui sont un petit peu coincées entre la poire et le fromage, quoi. Enfin, entre les dates FIFA et des dates non FIFA. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que les Jeux Olympiques pourtant motivent les footballeurs africains puisque deux fois déjà, des équipes africaines ont gagné les JO, le Nigeria et le Cameroun. Donc,
on se souvient.
L'Afrique a une chance aux Jeux Olympiques, non négligeable, parce qu'il y a peu de participants et trois équipes africaines, ce qui est une proportion intéressante sur le total.
Oui, la hiérarchie est en plus
c'est un petit peu,
pas
disons
établie en
la proportion est un peu plus favorable qu'à la Coupe du Monde, par exemple, je pense, pour l'Afrique. Donc, c'est un peu dommage que la CAF ne valorise pas davantage les qualifications et ne favorise pas aussi une plus grande participation. Philippe a eu raison de le souligner.
Qui sait si les oreilles de la CAF, les grandes oreilles de la CAF, vous entendront aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Et donc, eh bien, c'était le coup d'envoi aujourd'hui. On essaiera de suivre qui s'en sort de ce chemin de croix. On continue et on termine avec une petite musique qui va sans doute vous plaire.
Vous m'avez rappelé mes premières booms, là. C'est magnifique.
C'est l'heure des slows.
Quel slow, ah bah oui.
En fin de soirée, comme ça, c'est l'heure des slows.
Un groupe allemand, hein. Alphaville.
Alphaville, voilà. Exactement. Laurent nous ouvre souvent la boîte à souvenirs. Et ça nous fait toujours sourire dans le bureau. Alors pourquoi Forever Young, hein, toujours jeune? Eh bien, parce que l'heure de la retraite, Cristiano Ronaldo refuse d'y penser. L'homme aux 5 ballons d'or qui s'apprête à jouer contre la République tchèque samedi à Prague a encore beaucoup d'ambition avec la Seleção du Portugal, alors qu'on lui a remis hier soir à Lisbonne le Quinas de Ouro. Alors là, c'était la récompense du meilleur buteur de l'équipe nationale. C'est un record, 189 buts pour 117 sélections. C'est absolument ahurissant. Et voilà ce que Cristiano Ronaldo...
C'est l'inverse.
Non, non.
189 sélections et 117 buts.
Oui, pardon. Oui,
il vient
c'est déjà pas mal.
Oui, il vient d'effacer l'Iranien Ali Daei des tablettes internationales.
Excusez-moi, c'est l'inverse.
C'est déjà exceptionnel.
Donc 117 buts pour 189 sélections. Il ne marque pas à tous les matchs, Cristiano, mais écoutez ce qu'il a déclaré.
Je fais partie d'une équipe avec beaucoup de jeunes talents qui ont un futur prometteur. Évidemment, je veux continuer encore avec eux au prochain mondial et même à l'Euro. Mon parcours n'est pas encore terminé. Vous allez devoir me supporter encore quelques temps. Alors, je suis toujours heureux de recevoir un prix, mais des gens me disent en plaisantant, tu es toujours là, tu épuises les autres et toi, tu es là. Et c'est vrai.
Il est toujours là, Cristiano Ronaldo. Il avait déjà déclaré, hein, si je ne me trompe pas, qu'il voulait rester jusqu'à 40 ans. Donc là, il en aura 39.
Il peut jouer avec son fils, peut-être, dans la même équipe.
Hein, qui sait. Est-ce que on sait qu'il s'entretient physiquement très sérieusement? Est-ce que vous pensez qu'il a raison de vouloir pousser et repousser la limite d'âge ainsi et se motiver aussi sans doute au vu de ce qu'on voit de ces saisons dernières, Benjamin?
Moi, je pense déjà physiquement, il n'y a rien à dire. On sait qu'il s'entretient, il fait attention à son hygiène de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, il est dans le plaisir. Il veut repousser les limites, il veut battre tous les records, ça c'est ce qu'il dit, hein. Il est hyper motivé et pour moi, tant que je le vois, comme je le vois tous les week-ends, avec autant d'envie, autant de motivation, ça me va. Je prends du plaisir à le voir jouer malgré son âge. Et puis, moi, je ne reste pas focus sur l'âge. Tant qu'il est performant, ben, nous, on prend du plaisir. On espère qu'il va durer encore longtemps.
Philippe, c'est peut-être pour le sélectionneur que ça peut être compliqué?
Oui, un petit peu, parce que c'est, admettons, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit...
Si on ne peut pas sortir Mbappé de l'équipe de France, je crois qu'on ne peut pas sortir Cristiano.
Non, mais bien sûr.
Ou le mettre sur le banc et le faire rentrer.
Oui, bon, pour l'instant, il est encore tout à fait compétitif. Donc, bon,
je pense que le
problème n'est pas... oui, mais il n'est plus au même niveau quand même. Et il n'est plus au même niveau qu'il a été, évidemment. Il est un peu plus en dessous, mais il est encore tout à fait compétitif. Donc, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Mais peut-être qu'à l'orée de 2024... peut-être que là, le sélectionneur se retrouvera devant toute une génération de super jeunes attaquants qui marchent dans tous leurs clubs et puis un Cristiano qui veut absolument s'accrocher à sa place et qui tient plus la route. Bon, enfin, tant qu'on n'en est pas là, franchement, pourquoi lui interdire de jouer?
Ah non, je ne vais pas lui interdire. C'est...
Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je veux dire, souvent, on veut toujours juger. Ah, mais il aurait dû arrêter au sommet de sa gloire. Ah, il aurait dû arrêter là. Ah, il aurait dû arrêter... Bah, il arrête quand il veut. Et moi, ah ça ne oui, me dérange bah
on,
pas
on
du tout.
D'ailleurs, on le verra à la Coupe du Monde.
Ça ne me dérange pas du tout que Cristiano Ronaldo veuille continuer. Et s'il a envie de continuer jusqu'en 2026 et qu'il soit beaucoup moins bon, mais pourquoi pas. C'est pas grave. Même s'il joue en deuxième division portugaise, ça reste Cristiano Ronaldo.
Roger Miller, il a joué jusqu'à voilà. plus de 40 ans.
Oui, exactement. Donc... Respect. Il est plus jeune ou plus âgé que toi
La grande question de l'émission. Patrick Juillard, de toute façon, on voit quand même cette lignée de joueurs sérieux et talentueux qui continue très tard. Je pense évidemment à Ibrahimovic, qui est toujours au Milan AC. Mais on voit toutes les semaines, et Benjamin Donc doit les voir aussi toutes les semaines, on voit Messi, on voit Modric, on a vu Dani Alves encore jusqu'à la saison dernière et il continue à jouer, certes au Mexique, mais il continue à jouer. Et c'est vrai que peut-être que la manière de s'entraîner aujourd'hui, de savoir se préparer et s'entretenir.
Les datas aussi, les données numériques qui permettent de mieux connaître son biorhythme, son mode de récupération et d'adapter la charge de travail en fonction de l'âge. Et aussi l'intelligence du joueur qui a su adapter son profil technique à l'évolution de son physique. C'est-à-dire Cristiano Ronaldo ne peut plus aujourd'hui, à l'âge qu'il a, faire les courses répétées qu'il faisait à Manchester United quand il partait du rond central sur l'aile gauche et qui dévastait tout sur son passage. Maintenant, il est plutôt un joueur des 20-25 derniers mètres. Il court moins, mais comme il est encore très efficace et qu'il a perfectionné ses gestes avec le temps, il est encore utile à son équipe.
On se souvient de Romario, il faisait ça.
Après, ça dépend aussi des joueurs. Si vous voyez, il y a un autre joueur portugais qui, cette semaine, Rafa Silva, un autre buteur efficace, qui lui a déclaré qu'il voulait arrêter la sélection alors qu'il a... presque 10 ans de moins que Cristiano Ronaldo. C'est aussi un choix personnel en fonction de choses qui regardent le joueur. Si Ronaldo se sent de continuer à jouer, je pense que personne, de toute façon, n'osera le sortir de l'équipe si lui dit « moi, je me sens capable ».
C'est impressionnant.
Après, il y a une question peut-être de la manière dont le sélectionneur du Portugal voudra faire jouer l'équipe. Maintenant, je pense qu'il y a aussi derrière la tête de Cristiano Ronaldo, quand il fait cette déclaration, il faut savoir que cette année, il est très frustré de ne pas jouer la Ligue des Champions. Mmh. Ses statistiques, ses records vont connaître un coup d'arrêt. Donc, il pense à la suite. Il se dit, je veux continuer à marquer l'histoire de la Ligue des Champions.
Il le dit aux clubs qui peuvent être intéressés.
Et pour cela, je dis à tout le monde que je suis encore motivé, que je veux encore, entre guillemets, tout faire péter au niveau des statistiques. Et ça, c'est un message peut-être pour le mercato aussi.
Benjamin, il y a les datas, il y a la condition physique, il y a s'entretenir, mais il y a aussi évidemment le mental. Vous, quand vous disiez, moi, je ne sais pas si j'aurais pu continuer, c'est aussi dans la tête de se dire, c'est pas seulement repousser les limites.
C'est l'envie, quoi.
Vous parlez de plaisir.
Oui, c'est le plaisir et puis c'est l'envie aussi parce qu'à un moment donné...
Aller tous les jours à l'entraînement, c'est...
Quand on a aussi le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on a fait et que bon, on ne peut pas donner plus que ça, des fois, vaut mieux dire que bon, c'est bon pour moi, je m'arrête là. Mais pour revenir à Ronaldo, on voit qu'il a encore cette envie-là. Comme je disais à Philippe tout à l'heure, moi, je le trouve pas aussi performant qu'il était avant. Mais il a toujours ce truc-là. C'est un joueur que tu sais qu'à tout moment, il peut te faire gagner un match. C'est pareil pour Messi. On ne retrouvera pas le même Messi qu'on a connu à Barcelone. Mais on voit qu'ils ont développé quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils nous ont montré. Donc pour moi, qu'il aille jouer jusqu'à 40 ans, ça ne me pose pas de problème. Mais bon, il n'y a que lui qui décidera quand il aura envie d'arrêter.
On voit même en Afrique, ce mois-ci est revenu en sélection, Stéphane Sessegnon, qui a largement passé les 35 ans, voire plus, et qui joue maintenant à Malte. Alors, c'est un petit championnat dans un petit club, mais il joue encore. Mm-hmm. Il essaye de se maintenir en forme et son sélectionneur, pour l'encourager, parce qu'il peut encadrer des jeunes aussi. Il y a un rôle d'encadrement des jeunes c'est chez ces joueurs
qui sont proches de la quarantaine. On l'a entendu tout à l'heure le dire. Il dit, avec tous ces jeunes talentueux, puis, je veux continuer.
Il y a aussi une question de lien générationnel avec des joueurs très jeunes. Des coachs, parfois, souvent les sélectionneurs sont des gens assez âgés, donc c'est bien qu'il y ait des joueurs intermédiaires.
Ouais, qui feront le lien. Qui feront le lien.
Bon, après, il faut laisser la place aussi aux jeunes, parce que sinon, ils n'existeront jamais.
Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été dans cette émission aujourd'hui.
Merci, Anne.
Patrick Juillard et Philippe Doucet. Monsieur Philippe, merci beaucoup d'être passé par votre escale dans notre studio. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous fidèlement demain. We'll be right back.